Pour rester informé tout au long de la journée, écoutez Radio Oméga.
Radio Oméga.
103.9 Ouaga, 104.7 Fobodioulasso. Radio Oméga, le journal. Les titres de l'actualité.
Alinda Ouedraogo.
Madame, messieurs, bonsoir. À la une de l'actualité ce vendredi, lutte contre le terrorisme. L'émir de Djibo est au cœur de négociations avec des groupes armés. Et puis ce vendredi, au cœur de l'éditorial version Oméga Média, il sera question avec Ouezan Louis Houlon de la mise en place des comités locaux pour dialoguer avec les terroristes. En sport, les étalons du Burkina Faso ont un nouvel entraîneur. Il s'agit du sélectionneur français Hubert Velude. Notre invité du jour, Mahamoudou Savadgo, espère en sécurité, aborde également dans le même sens avec les tenants et les aboutissants de la mise en place des comités locaux de dialogue. Voilà pour vos titres. Bonsoir et bienvenue.
Oméga Sport.
Les étalons du Burkina Faso ont un nouvel entraîneur en remplacement de Kamou Malo. Il s'agit du sélectionneur français Hubert Velude. Hubert Velude est titulaire d'une licence UEFA Pro. Il a fait la plus grande partie de sa carrière en Afrique, notamment en Algérie, au Bénin et au Togo. Il a désormais la lourde tâche de ramener la sérénité et la discipline au sein de l'écurie. Bernabé Cabré pour le palmarès du nouvel entraîneur.
Hubert Velude, 62 ans, a été gardien de but. Il a fait la plus grande partie de sa carrière à Rennes dans le championnat français entre 1979 et 1989 avec à la clé 287 matchs joués. Il débute sa carrière d'entraîneur en 89 avec le club olympique Chalon. Il enchaîne ensuite avec Ajaccio, Paris FC, Clermont, Cherbourg, Toulon et l'AS Beauvais. En 2009, il débarque au Togo et prend les commandes des Éperviers, qu'il envoie à la CAN 2010 en Angola. L'équipe déclare finalement forfait après l'attaque de Cabinda. Hubert Velude est touché au bras dans cette attaque. Il démissionne les mois qui suivront. En 2011, le technicien français est de retour en Afrique, précisément au Hassania d'Agadir, un club marocain. C'est parti pour un long marathon à travers le continent. Il va entraîner les clubs suivants: le Stade tunisien, l'Entente Sétif, l'USMA d'Alger, le Club sportif de Constantine, le Tout-Puissant Mazembe, l'Étoile du Sahel, le Dif Adel Jadida, la JS Kabylie. Il fera entre-temps un bref passage à la tête de l'équipe nationale du Koweït. En 2020, Hubert Velude est annoncé à la tête de l'équipe du Soudan. Il réussit à qualifier le Crocodile du Nil pour la CAN 2021, 10 ans après leur dernière apparition. Mais il est limogé en décembre dernier après la Coupe arabe des Nations et une place de quatrième dans les éliminatoires du Mondial 2022. Au palmarès, Hubert Velude a remporté la Coupe CAF et la Super Coupe CAF en 2016 avec le Tout-Puissant Mazembe. Il a aussi gagné la même année le championnat national et la Super Coupe de la RDC. En Algérie, le technicien français a remporté 2 fois le championnat, en 2013 avec l'Entente Sétif et 2014 avec l'USMA d'Alger. Il a également gagné la Super Coupe d'Algérie en 2013 avec l'Entente Sétif.
Lutte contre le terrorisme au Burkina Faso, l'émir de Djibo est au cœur de négociations avec des groupes armés. L'un des premiers résultats de l'instauration de ce dialogue, c'est l'approvisionnement de la ville de Djibo mercredi dernier. Le point avec Moumouni Tamboura.
Selon nos informations, les autorités ont fait venir il y a quelques jours l'émir de Djibo à Ouagadougou pour s'entendre sur un chemin de négociation avec les combattants terroristes de la province de Soum. De retour à Djibo, l'émir a dépêché une mission qui a pu entrer en contact avec les hommes armés. Toujours selon nos informations, la délégation est revenue avec les nouvelles réconfortantes. Les hommes armés ont donné un délai de 72 heures pour déterrer toutes les mines sur la route de Djibo jusqu'à Bourzanga avant de libérer la route. Précise une source locale à Oméga et d'ajouter que sur toute l'étendue de la province de Soum, tout le monde est libre de vaquer à ses occupations, ce qui a facilité le ravitaillement de Djibo par un convoi, une centaine de véhicules escortés par l'armée. D'ailleurs, le convoi a été accueilli dans une liesse populaire. Depuis de longues semaines, la ville de Djibo subissait un blocus imposé par les groupes armés terroristes. Elle n'avait pu être ravitaillée qu'une seule fois, grâce à une première escorte des forces de défense et de sécurité. Une opération qui entre dans le cadre de la sécurisation de la ville de Djibo et des localités voisines par des forces armées. Elle intervient quelques jours après la visite du chef de l'État Paul-Henri Damiba à Barcelo et Djibo. Mardi dernier, Yero Boli, ministre de la Réconciliation nationale, avait indiqué que la plupart des combattants sont des nationaux dans la grande majorité. Si ces jeunes reviennent, nous allons leur proposer de les réinsérer dans la société à travers des activités professionnelles. Par exemple, si vous souhaitez refaire ce que vous faisiez avant, l'élevage, l'agriculture, on va trouver le moyen de vous accompagner pour que vous puissiez démarrer une activité de ce genre, avait affirmé le ministre Boli. La création de ces comités locaux de dialogue n'est pas un aveu d'impuissance du gouvernement, avait assuré le ministre Boli, et de préciser que leur nombre variera en fonction des initiatives sur le terrain. Ces comités devront se trouver dans les zones à fort défi sécuritaire, le Nord, le Sahel, a-t-il assuré. L'extrémisme violent ne vient pas de l'extérieur. Avant d'expliquer, le 14 avril dernier, Paul-Henri Damiba, lors d'une rencontre avec des directeurs de médias burkinabés pour le président de la transition, le dialogue doit donc démarrer sur le terrain grâce aux autorités locales.
Justement, on parle dans notre éditorial de la mise en place des comités locaux de dialogue pour la paix qui vise à instaurer le dialogue avec les groupes armés. Votre édito est signé Ouezan Louis Houlon.
Le gouvernement va dialoguer, mais ne négociera pas. Paul-Henri Damiba et Yero Boli sont catégoriques sur leur démarche vis-à-vis des groupes armés qui menacent la sécurité des Burkinabés, qui tout de suite se demandent quelle différence y a-t-il entre dialoguer et négocier. C'est une rhétorique. À égarer le citoyen lambda, dialoguer dans le Larousse français, c'est une conversation entre deux ou plusieurs personnes sur un sujet défini. Compte tenu de cette conversation, entretien, discussion, le dialogue est opposable au monologue ou la rupture du banc de communication. Dialoguer suppose donc prise de contact, relation de communication dans les deux sens, où émetteurs et récepteurs alternent leur rôle avec une disposition à s'écouter parfaitement. La négociation, elle, peut être un élément du dialogue dépendant de l'objet de ce dialogue. Négocier voulant dire discuter de quelque chose avec quelqu'un en vue d'établir la chose, de la rétablir, de l'obtenir. Comme par exemple, négocier la paix, négocier le dépôt des armes avec des frères burkinabés engagés dans des groupes terroristes. La négociation touche à l'objet du dialogue. On ne peut pas négocier sans dialoguer. Or, dans le contexte de la crise sécuritaire burkinabé, tout dialogue irrelatif va viser naturellement la paix. On va donc dire qu'on négociera quelle qu'en soit la situation. Ce qui n'est pas négociable dans la partie du dialogue, ce sera des points spécifiques de souveraineté et de valeur, comme monnayer leur désarmement contre des espèces sonnantes et trébuchantes, comme concéder une partie du territoire burkinabé, etc. Affirmatif donc, le gouvernement burkinabé négociera si dialogue il y a, sauf si c'est un dialogue de guerre dont l'objet n'est pas du tout la paix. On peut comprendre que Paul-Henri Damiba et Yero Boli n'aient pas trouvé les mots justes pour exprimer leurs idées. Schématiquement parlant et dans le lexique de la résolution des conflits, les priorités des autorités burkinabées vont être la déradicalisation et la prévention. Comme en médecine, la déradicalisation va consister en un sérum pour traiter le mal et en fonction du niveau, il y aura un traitement par voie orale, intraveineuse et la chirurgie pour les cas graves. Autrement, le dialogue et la négociation qui vont ensemble se feront avec ceux qui sont encore convertibles pour les amener à passer de la position radicale à celle modérée. La prévention équivalente de la vaccination va, elle, consister à préparer les Burkinabés non encore engagés à s'éloigner des prêcheurs de la violence et autres marchands d'illusions. Il faut comprendre enfin, dans la démarche des autorités de la transition burkinabé, que la cible des interlocuteurs, ce sont les frères burkinabés engagés dans le terrorisme et non un quelconque groupe terroriste qu'ils s'appellent en sardine Al-Qaïda au Maghreb islamique, Moujao, Boko Haram, Al-Mourabutoun ou Ansar al-Sharia.
Éducation. À présent, les examens scolaires se tiendront cette année entre le 2 juin et le 7 juillet. De manière générale, on retient cette année une baisse du nombre de candidats aux examens 2022. C'est ce qui ressort du point de presse de la Direction générale des examens et concours tenu ce vendredi à Ouagadougou, qui a fait le point des préparatifs des examens de la session 2022. Régis Bonny pour le compte-rendu.
Plusieurs axes ont marqué cette rencontre avec les hommes et femmes de médias, dont principalement le calendrier des examens de la session 2022, les inscriptions aux examens, le budget prévisionnel ou encore les innovations de cette session. La session 2022 des examens connaît un certain réaménagement et commence le 5 mai prochain. Dr Prosper Bambara, directeur général des examens et concours.
Les épreuves d'éducation physique et sportive précèdent, comme à l'accoutumée, les épreuves écrites au niveau du post-primaire et du secondaire. Au post-primaire, les épreuves sportives débutent le 5 mai et se poursuivent jusqu'au 19 mai 2022. Pour l'examen du baccalauréat, les épreuves sportives commencent le 23 mai 2022. Pour ce qui concerne donc les épreuves écrites, le programme est le suivant. Le BEPC du 2 au 15 juin, les BEP du 2 au 13 juin, les CAP du 2 au 12 juin, le certificat d'études primaires CEP du 7 au 9 juin et enfin le baccalauréat du 21 juin au 7 juillet.
Pour ce qui est des inscriptions, comparativement à la session de 2021, l'on note une baisse globale de 4,7% au CEP, 11,5% au BEPC et 7,94% au baccalauréat. Seuls les examens du BEP et du CAP connaissent un accroissement de 4,66% comparativement à la session de 2021. Et pour ce qui concerne l'organisation des sessions spéciales, le directeur général des examens et concours se veut on ne peut plus clair. Dr Prosper Bambara.
Il n'est pas pour le moment en tout cas prévu qu'il y ait des examens spéciaux ou un examen spécial pour le certificat d'études pour le BEPC. Pour l'instant, il n'est pas envisagé pour le moment, comme j'ai dit, comme c'est une décision que peut prendre le gouvernement. Si toutefois, par la suite, le gouvernement prend la décision d'organiser une session spéciale, bon, nous allons y aller. Pour le moment, ce n'est pas prévu.
Le budget prévisionnel de la session 2022 est de 23 046 804 874 francs CFA, dont les détails sont donnés par le docteur Prosper Bambara, directeur général des examens et concours.
Pour le certificat d'études, 7 460 542 000 francs. Pour le BEPC et BEPCAP, 7 885 862 874 francs. Le baccalauréat, 7 700 000 000.
Pour la session 2022 des examens, plusieurs filières ont été enregistrées. Dr Prosper Bambara, directeur général des examens et concours.
Nous enregistrons une nouvelle filière en BEP cette année, notamment électricité et installation d'équipements solaires. Au baccalauréat professionnel, deux nouvelles filières ont vu le jour, notamment le métier du bois et la cuisine. Les innovations annoncées en mars 2021 sont prises en compte au cours de cette session. Toutes les filières sont éligibles aux épreuves de remplacement.
La Direction générale des examens et concours rassure qu'à la date du 22 avril, les préparatifs se déroulent de manière satisfaisante en dépit des difficultés essentiellement liées aux acquisitions de fournitures qu'elle essaye de surmonter.
Tout autre chose à présent, la première édition du Salon international de la reconversion professionnelle de Ouagadougou-Sirpo se tiendra les 17 et 18 novembre prochains. Organisé par le cabinet d'études et de recherche en entreprise, ce rendez-vous sera une tribune qui permettra aux travailleurs de tenter de nouvelles aventures professionnelles et de lancer de nouveaux défis de la vie par un accompagnement personnalisé et adapté. Le comité d'organisation a donné les grands axes de ce salon hier à Ouagadougou. On en sait un peu plus avec Valérie Traoré et Bernabé Cabré.
La problématique de la reconversion professionnelle revient avec insistance au Burkina Faso. Pour y remédier, le cabinet d'études et de recherche en entreprise a lancé son programme Baobab pour une reconversion réussie. Il sera donc organisé en novembre la première édition du Salon international de la reconversion professionnelle de Ouagadougou. L'objectif est de valoriser les compétences des travailleurs de tous bords et les aider à se réorienter. Amadou Nebila Yaro, directeur général du cabinet d'études et de recherche en entreprise.
Nous avons pensé, au regard de notre expérience, qu'il était bon d'être à la disposition donc, des seniors, ce que nous appelons les seniors, des possibilités, des opportunités donc, de préparer donc, leur retraite pour que justement, à la retraite, qu'ils puissent continuer donc, à exercer donc, et à faire autre chose. Notre ambition, c'est en créant donc, cette première édition donc, du CIRPO, c'est d'offrir un cadre d'échange entre les seniors, les associations et puis tous les partenaires nationaux et internationaux pour pouvoir les accompagner justement dans ce processus en leur offrant donc tous les produits, tous les services, quel que soit le profil donc qu'il y a, pour que justement ils puissent avoir une reconversion professionnelle réussie.
La reconversion professionnelle ne doit pas être brusque. Elle est le fruit d'un processus selon Amadou Nebila Yaro.
Et cette reconversion professionnelle-là, elle se prépare avant. Elle se prépare avant, c'est pour ça que nous visons dans les seniors. Elle se prépare avant, 5 ans, 10 ans, voire même 15 ans avant dans la retraite, pour se donner donc toutes les chances donc, de pouvoir aboutir donc, à cette reconversion professionnelle.
La première édition du Salon international de la reconversion professionnelle de Ouagadougou va se tenir sous le thème « La reconversion professionnelle, une réalité professionnelle ».
Et puis la société de recherche et d'exploitation minière Burkina Gueulsouk a réalisé des forages d'approvisionnement d'eau potable au profit des populations de Tinkoro dans la commune rurale de Midebo, province de Noumbiel dans le sud-ouest. La remise des 10 forages a eu lieu hier matin à Tinkoro. Moumouni Yaro pour le compte-rendu.
L'eau est source de vie, mais elle est encore plus quand elle est propre à la consommation. Ce qui est inaccessible à tous, tant bien que les autorités en charge de ce liquide précieux et vital promettent zéro corvée d'eau d'ici 2030 au Burkinabé. Mythe ou réalité, tout compte fait, la société de recherche et d'exploitation minière Burkina Gold Souk leur vient en aide en soulageant les peines des habitants de la commune de Midebdo. Arsène Nanema, gérant de la société.
L'accès à l'eau potable constitue vraiment un véritable souci pour la population. Et cela a été vraiment un cri de cœur de nos mamans. On n'a pas voulu rester indifférent. À travers ce don, on souhaiterait renforcer la collaboration et la cohésion sociale aussi bien entre la société et les différentes collectivités locales.
Ces forages viennent raccourcir les longues distances que parcouraient les jeunes et les femmes pour se procurer de l'eau potable. Jacob Palé, habitant de la commune.
Souvent, on vient ici même pour trouver l'eau à boire, c'est difficile. Il faut repartir à Gawa pour chercher l'eau à mener. Mais hier, quand on est venu ici, c'est ici qu'on a bu l'eau. Et Dieu le bénisse pour que la société avance. Là où on part enlever l'eau, là, les mamans là, ne peuvent pas arriver là-bas. C'est les jeunes là. Donc c'est toute la population qui souffrait. Là où on part enlever l'eau, c'est plus de 10 km. Hein. Si c'est au bas-fond là, ça c'est pas l'eau, c'est la boue. Ça a d'autres bouillis, d'autres ne bouillent pas.
Le haut commissaire de la province de Noumbiel interpelle les bénéficiaires à une bonne utilisation des ouvrages. Mathieu Tengueri.
J'ai invité la population à en prendre soin, afin donc d'assurer sa pérennité, afin qu'ils puissent continuer à bénéficier de l'eau potable. Avec la société n'a pas encore démarré ses activités, mais déjà elle a pu réaliser 5 forages au profit des populations. Je peux dire que désormais nous pouvons compter sur leur contribution au développement socio-économique.
Pour la concrétisation de cette confiance, la société lance son cri de cœur aux autorités. Arsène Nanema.
La suspension des dépôts pour l'octroi des nouveaux permis d'exploitation semi-mécanisée constitue vraiment un véritable obstacle pour la suite de notre activité. Donc c'est l'occasion pour nous de lancer un appel à l'autorité compétente de œuvrer en ce sens.
La réalisation de ces ouvrages a coûté 18 350 000 francs CFA. Elle entre dans le cadre de la mise en œuvre du projet de la mine semi-mécanique de Burkina Gold Souk dans le village de Tinkiro.
Or, de chez nous, au lendemain de 2 attentats revendiqués par l'organisation État islamique, l'Afghanistan a de nouveau été frappé ce vendredi par une explosion dans une mosquée. Un premier bilan fait état de 33 morts et de 43 blessés. Et puis au Mali, au lendemain du départ des derniers soldats français de la barre de Gossi au centre-est du pays, ils sont accusés de bavure. Un premier tweet alertait, je cite, « Les images des cadavres depuis la base de Gossi sont terribles ». Dans ce tweet publié mercredi dernier, l'auteur évoque un crime contre le peuple malien fait par les Français et une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux WhatsApp. Seulement, l'armée française avait positionné ces dernières 24 heures un drone à l'aplomb du camp de Gossi. Une vidéo prise par ce drone et que RFI a pu visionner montre une dizaine de soldats caucasiens pelle à la main recouvrés de sable des cadavres qui sont dans la même position que ceux de la photo du tweet. On y voit deux hommes filmer le charnier. L'armée française estime que la comparaison des photos publiées sur Twitter et des images du drone permet d'établir un lien direct entre ce que font les mercenaires russes et ce qui est faussement attribué aux militaires français. Et puis l'ancien président Mwai Kibaki, troisième chef d'État de l'histoire du Kenya, est décédé à l'âge de 90 ans, a annoncé ce vendredi à Nairobi l'actuel chef de l'État, Uhuru Kenyatta, impliqué dans la politique kényane depuis l'indépendance en 1963. Mwai Kibaki, ancien professeur d'économie formé en Ouganda et à Londres, avait été élu en 2002 sur la promesse de lutter contre la corruption. Cet ancien ministre des Finances a par ailleurs été reconnu pour son rôle dans le développement de l'économie kényane à travers notamment le plan Vision 2030 repris par son successeur Uhuru Kenyatta. C'est ici que prend fin ce journal réalisé par Edwige Tiendre Bego. Merci de l'avoir suivi et excellente suite de programme à l'écoute de Radio Omega.
Radio Omega, l'info en direct.